CQFD, votre émission de science et de santé. Bastien Confineau.
Le clitocybe inversé, c'est un champignon comestible, très commun dans nos régions, absolument sans goût. Il pourrait être efficace contre les maladies génétiques rares, en particulier la mucoviscidose. Des résultats à lire dans le journal Molecular Therapy, Sarah Dirène.
Oui, c'est un espoir pour les personnes atteintes de mucoviscidose, maladie génétique qui affecte les cellules, celles qui produisent le mucus, la sueur ou les sucs digestifs. Ces fluides deviennent épais, vont coller, boucher les différents canaux ou les voies respiratoires. Donc, un espoir. Grâce à ce vulgaire champignon, l'Epista flaccida, il possède une enzyme, un principe actif qui pourrait grandement aider les personnes atteintes de mucoviscidose. Attention, pas toutes. Celles, les mucoviscidoses, liées à une mutation particulière dite mutation non-sens. Alors une mutation non-sens, c'est une mutation génétique qui modifie une séquence d'ADN de telle manière que cette séquence ADN ne peut pas coder pour la protéine voulue. Du coup, la protéine est dysfonctionnelle. Et dans 10% des cas de mucoviscidose, les traitements ne fonctionnent pas à cause justement de cette mutation non-sens. Et c'est dans ces mutations non-sens que notre vulgaire champignon pourrait jouer un rôle vraiment important.
Alors on va voir ça de plus près avec vous, Fabrice Lejeune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier auteur de cette étude. Vous êtes chercheur INSERM à Oncolille, c'est l'Institut de cancérologie de Lille. Ça veut dire que ce vulgaire champignon, c'est comme ça que Sarah le définit, ce vulgaire champignon corrige les mutations non-sens. Comment est-ce que ça fonctionne chez les personnes atteintes de mucoviscidose ?
Alors, en fait, pour le moment, on n'a pas testé encore chez l'homme. Par contre, ce qu'on sait, c'est comment la molécule, effectivement, peut agir au sein de la cellule. Donc, c'est une molécule qu'on a purifiée à partir du champignon, l'Epista flaccida. Et en fait, cette molécule masque la mutation non-sens. Elle efface les conséquences d'une mutation non-sens et permet de restaurer une protéine à la bonne taille et fonctionnelle, en tout cas dans les cas que nous avons testés.
Lorsque vous parlez de molécule, c'est la molécule DAP, c'est ça, hein ?
C'est tout à fait ça, oui, c'est son nom complet, c'est 2,6-diaminopurine, mais oui, on l'appelle DAP.
Oh, c'est plus simple, le DAP. Alors, oui. Vous avez testé, Fabrice Lejeune, cette molécule DAP sur des différents tissus, lesquels en particulier ?
Alors, on a testé sur un modèle de souris qui portait une mutation non-sens, donc sur le gène CFTR, qui est le gène donc responsable de la mucoviscidose quand ce gène n'est pas exprimé ou mal exprimé. Et donc, on a obtenu une restauration de ce canal CFTR et une restauration fonctionnelle de ce canal CFTR en donnant à ces souris tous les jours oralement la DAP. On a aussi testé sur des cellules de patients. Et ça, c'est, je voudrais juste mentionner le travail extraordinaire de vaincre la mucoviscidose qui nous a permis d'avoir accès à des cellules de patients. Et donc de patients atteints de mucoviscidose. Et enfin, on a testé aussi sur ce qu'on appelle des organoïdes. Donc ce sont des cellules qui s'assemblent pour mimer les caractéristiques d'un organe. Et donc dans tous les cas, on a obtenu à chaque fois une restauration de l'expression du canal CFTR, mais aussi une restauration fonctionnelle de ce canal CFTR.
Ça veut dire que concrètement, vos souris qui avaient la mucoviscidose n'exprimaient plus les symptômes de mucoviscidose ?
Alors, on a effacé effectivement un certain nombre de caractéristiques. Alors, chez la souris, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que chez l'homme. Par exemple, une souris ne peut pas tousser. Mais, par exemple, il y a une mortalité qui est liée à l'absence du canal CFTR. Et on a réussi, donc, par exemple, en nourrissant les mères, à permettre de sauver les embryons in utero, donc à l'intérieur de l'utérus, et avoir donc beaucoup plus de naissances de petits avec la mutation, par exemple. Et ensuite, on a pu continuer le traitement sur ces nouveaux-nés.
Ça fait des années, Fabrice Lejeune, que vous travaillez sur, alors non pas sur la mucoviscidose, mais sur les mutations non-sens. Comment vous êtes tombé, je crois que c'était en 2012, sur ce vulgaire champignon ? Pourquoi vous êtes dit, tiens, super, c'est ce champignon qui va régler tous les problèmes ?
C'est vrai qu'au départ, on ne le savait pas. En fait, on est parti de ce qu'on appelle un criblage, c'est-à-dire un test un peu à l'aveugle de milliers de composés chimiques ou d'extraits. Et donc, oui, je suis parti de 20 000 extraits de plantes, de micro-organismes et de champignons grâce à un financement de la Fondation Maladies Rares et grâce à la Chimiothèque Nationale. Et sur ces 20 000 extraits, un seul nous a donné une activité. Et cet extrait, c'est donc l'extrait du Lepistaphylos Faxida qui venait du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et ce qui nous a permis donc de commencer une collaboration avec le muséum par la suite pour purifier la DAP.
Là, vous avez travaillé sur la mucoviscidose, mais ces fameuses mutations non-sens qui empêchent de produire un certain nombre de protéines correctement, ces mutations non-sens, c'est quelque chose qu'on trouve dans plein d'autres maladies rares. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la mucoviscidose et pas, par exemple, je sais pas, la myopathie de Duchenne qui a aussi des versions non-sens?
Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Donc le choix, en fait, s'est porté sur la mucoviscidose basé sur plusieurs critères. Le premier, c'est d'avoir à disposition un certain nombre de modèles, notamment des modèles cellulaires. On a pu créer aussi le modèle murin grâce au soutien financier de Vaincre la mucoviscidose. Donc c'est important d'avoir en fait des associations de patients aussi qui nous aident et aussi sur un certain nombre d'études qui avaient été faites au préalable sur ces pathologies. Donc ce choix en fait est plutôt fait d'un point de vue pratique, mais effectivement ce type de molécule pourrait agir sur les cas de mutation non-sens dans la dystrophine, dans le syndrome de Rett par exemple. Donc on a effectivement démontré sur une pathologie, mais on espère pouvoir extrapoler sur d'autres pathologies ensuite, bien sûr après avoir testé qu'effectivement la molécule était efficace.
Cécile Guérin.
Oui, je me demandais, est-ce que l'effet de cette molécule perdure dans le temps ou il faut la redonner à chaque fois ?
Alors oui, c'est par exemple les souris, on devait les traiter une fois par jour. C'est un effet qui est assez temporaire. Par exemple, on a démontré que la molécule était présente 2 heures après avoir fait manger les souris donc de la molécule. Et donc, ce qui est un avantage parce qu'en fait, la molécule ne va pas rester présente constamment dans l'organisme et donc pourrait induire des effets toxiques. Le désavantage, c'est qu'effectivement, on a une fenêtre de 2 heures pendant laquelle on permet la réexpression de la protéine manquante. Alors en général, ça peut être suffisant puisque par exemple dans le cas de CFTR, on sait que la protéine est stable pendant 48 heures.
Mmh. Mais ça veut dire que si je me goinfre de ce Lepistaphylaxida que je trouve vraiment dans mon jardin, vraiment, enfin ici dans nos contrées, ça n'a pas de goût mais c'est pas toxique. Si je me goinfre de ce champignon tous les jours, Fabrice Lejeune, ça va, je guéris?
Alors c'est une idée effectivement qu'on pourrait avoir, mais qu'il faut surtout pas envisager pour la bonne et simple raison que les champignons renferment de nombreuses molécules et certaines d'entre elles peuvent être toxiques. Alors quand on en mange de façon ponctuelle et en petite dose, il y a aucun problème. C'est pour ça qu'on a des champignons qui sont comestibles. Mais de là à imaginer qu'on va pouvoir faire un traitement en mangeant de grandes quantités et fréquemment donc du champignon, ce serait contre-productif et surtout très dangereux. Donc c'est surtout à ne pas faire et c'est bien pour ça qu'on a purifié en fait la DAP de manière à éliminer toutes les autres molécules qui pourraient éventuellement avoir un effet toxique. Et donc maintenant, on peut se concentrer uniquement sur cette molécule-là et déterminer ses caractéristiques.
Ça veut dire en quelque sorte que vous créez un concentré du principe actif à partir de ce champignon ?
Alors, on peut effectivement purifier et concentrer donc la DAP. C'est ce qu'on a fait avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Maintenant, on l'utilise aussi de manière plus industrielle. C'est une molécule qui peut être synthétisée assez facilement. Donc, on l'achète en fait.
Allô?
Je crois qu'on vous a perdu.
Oui.
Ah non, on vous a retrouvé.
Oui. C'est-à-dire que maintenant, vous avez cette molécule, Fabrice Lejeune, vous avez le protocole aussi. Vous l'avez réalisé sur des patients atteints de mucoviscidose. Maintenant, il faut recommencer si on veut travailler sur, je sais pas, d'autres patients atteints de maladies rares.
Alors, on ne l'a pas testé encore sur des patients.
Oui,
on l'a testé sur des cellules de patients.
De patients, oui.
Mais on n'est pas encore atteint les essais cliniques. Alors, effectivement, si on veut extrapoler nos résultats sur une autre pathologie, on sera forcément obligé, effectivement, de tester sur des modèles qui sont adaptés à la pathologie. Par exemple, on parlait de la myopathie du chêne. Il faudra forcément qu'on teste la molécule sur des cellules musculaires, par exemple, pour être sûr que la molécule rentre dans ces cellules et agit. Alors, le mécanisme sera le même une fois rentré dans les cellules, mais on peut avoir, par exemple, une limitation liée à l'entrée de la molécule dans certains tissus ou dans certains types cellulaires.
Voilà, et ce sont des travaux qui prennent beaucoup de temps. Il faudra encore attendre une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années.
Un grand merci pour cette lueur d'espoir pour les personnes atteintes de maladies génétiques, donc à mutation non-sens. Je rappelle, Fabrice Lejeune, que vous êtes chercheur INSERM au sein d'Oncolille, un institut qui regroupe en fait différents centres, le CNRS, l'Université de Lille, l'Institut Pasteur ou encore le CHU de Lille. Je vous souhaite une excellente journée chez les Ch'tis.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée à vous aussi.
Merci beaucoup.
CQFD sur la première.